En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute foot, voyage, rencontre, expérience de vie avec des acteurs du football. Je suis Hugo Sanudo, je développe des projets liés au foot à travers le monde et j'accompagne également des entraîneurs dans l'obtention de leur diplôme via des VAE, validation des acquis de l'expérience. En dehors de ma surface a intégré Podio, le studio de production de podcasts spécialisé dans le sport. Aujourd'hui, notre invité est Julien Gourbert, journaliste sportif de profession et éducateur de football. Julien a créé le fameux magazine Vestiaire en 2009. Pour ceux qui ne connaissent pas, Vestiaire est une revue bimestrielle qui a vocation d'éclairer et d'inspirer les éducateurs de football de tous niveaux. Lors de notre échange, Julien nous emmène dans les académies mythiques qu'il a pu visiter pour le compte du magazine. La Masia à Barcelone, Milanello à Milan, l'Académie de l'Ajax, de Bruges, de la Real Sociedad. On y apprend beaucoup, notamment au sujet de leur méthodologie, leur manière de penser le football, de concevoir la formation et d'accompagner les jeunes. Bonne écoute! Salut Julien, comment vas-tu?
Très bien, merci.
Ouais, je suis très content d'avoir un peu de temps et de pouvoir discuter avec toi de foot, de formation, de
changer
de formation, ouais, pour changer un peu et de voyage. Est-ce que tout d'abord tu peux en quelques mots te présenter?
Oui, Julien Gourbert, donc j'ai 44 ans. Je suis journaliste sportif de profession et j'ai créé ma propre revue il y a maintenant 13 ans. La revue Vestiaire, et qui a permis de joindre à la fois mes compétences de journaliste et ma passion de l'entraînement, puisque je suis aussi éducateur à mes heures perdues. Voilà.
Tu l'étais, tu l'as toujours été avant Vestiaire ?
Je l'ai longtemps été, j'ai arrêté avec le Covid. J'étais éducateur à l'Olympique Lyonnais en U10-U11 et pendant 4 ans. Et voilà, ayant un proche chez moi qui était un cas à risque, j'ai tout arrêté avec le Covid et je n'ai pas repris depuis.
Ah ouais. Et ça te manque? Le terrain te manque?
Ça me manque un petit peu, ouais. Le contact avec les jeunes, ça me manque beaucoup.
Ouais. Bah ouais, j'imagine. Moi, je sais que beaucoup de gens qui écoutent ce podcast lisent Vestiaire, connaissent Vestiaire, mais en fait, c'est quoi exactement pour ceux qui ne connaissent pas?
Bon, Vestiaire, c'est parti de l'idée de créer une revue qui soit utile. Non pas que la presse sportive ne soit pas utile, mais c'est plus la presse sportive, une vocation récréative et informative. Là où nous, l'idée, c'était de créer une revue qui soit à caractère pédagogique, avec la vocation d'accompagner les éducateurs dans leur mission d'encadrement, que ce soit des enfants ou des adultes, et quel que soit le niveau. Avec les années, la revue s'est un petit peu spécialisée puisque les demandes, on prend beaucoup en compte les demandes de nos lecteurs qui nous ont demandé de plus en plus des sujets un peu plus techniques, tactiques, avec des reportages à l'étranger. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'être vraiment un outil d'aide, d'accompagnement pour éclairer, inspirer les lecteurs sans jamais se substituer à la formation.
Et donc avec moi, on va surtout parler pas de ces aspects trop techniques, parce que je ne vais pas pouvoir te suivre, mais justement, je vais parler un peu de ces rubriques que vous présentez chaque parution sur ces expatriés, sur ces académies du monde entier, où vous essayez de les décrire, de les présenter. Et je trouve ça intéressant de discuter avec toi le formateur et journaliste que tu es.
Alors, formateur, c'est un grand mot. Il y a des formateurs qui sont bien plus compétents que moi. Mais ceci étant, c'est intéressant effectivement de s'ouvrir vers l'extérieur. On se rend compte, et encore plus maintenant, après 13 années de Vestiaire, en ayant fait le tour de la France et presque d'Europe, des plus grandes académies, on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une recette qui fonctionne. Et par exemple, en Italie, quand vous allez en Italie ou quand vous allez en Allemagne, en Angleterre et en France, il y a des méthodologies, des approches qui sont très différentes, parfois même contradictoires, et malgré tout, derrière, l'action de formation, elle est efficiente. Donc ça doit quand même nous ramener, et nous, Français champions du monde en premier, à faire preuve quand même d'humilité, à se dire qu'on a chez nous un modèle qui fonctionne, c'est sûr, mais dans d'autres contextes, d'autres modèles fonctionnent également. Et c'est cette richesse qu'on essaye de partager à travers Vestiaire. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour dire il faut faire comme ci ou comme là. Ce serait bien prétentieux de notre part. L'idée, c'est de dire, tel club, lui, il fait comme ça. voilà, on est en train de, on traduit, on partage ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Et libre, en fait, ensuite, après, à nos lecteurs, ben, de se dire c'est bien, c'est pas bien, je m'en inspire, je m'en inspire pas. Et ça, ce travail de partage, pour nous, et pour moi en particulier, c'est ce qui me passionne le plus.
Et ça, c'était une des volontés dès le début, ou c'est petit à petit, vous êtes ouvert un peu à l'étranger, ou comment c'est arrivé c'est...
Oui, je dois dire que la vie du magazine Vestiaire, elle a évolué en même temps que ses lecteurs, en même temps que les demandes qui émanaient de la base de nos lecteurs. Au départ, l'idée, c'était de faire une revue, effectivement, à caractère pédagogique. Ça, depuis le début, c'était la vocation.
Quoi, des fiches
des articles sur la santé, le management, la préparation physique, en donnant la parole à chaque fois à des experts. Et puis, on a eu l'opportunité de faire quelques premiers reportages en France, d'abord, bien sûr, pour commencer, grâce à un réseau que j'avais déjà en tant que journaliste, et puis un petit peu à l'étranger. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, le foot, c'était pas le même ailleurs. Là, on s'est dit, il faut qu'on aille voir ça de plus près, il faut qu'on le partage avec nos lecteurs. Et donc, ça s'est fait effectivement un peu plus au fil des années, où on est allé à la recherche en fait, de ce qui se faisait de mieux et si possible de différent, parce que c'est la différence en fait, qui est intéressante.
Bah oui. Et c'était quoi le premier club ?
Alors, on a tapé fort, parce que le premier club, je crois que c'était le Barça.
Ah ouais.
Un an après le lancement de la revue, je ne sais plus comment on a eu cette opportunité d'aller à la Masia. C'était la grande époque de Barcelone. Alors, pour la petite anecdote, je me rappelle que le Barça donc, de Guardiola avec Messi, ils marchaient sur l'eau. Ils étaient à 7, 8, 9 victoires consécutives. Et plus une vingtaine de matchs sans défaite. Et on fait le reportage, et quand on revient, deux jours avant la sortie de la revue, ils perdent 3-0 contre. Donc, en termes de timing, c'était pas terrible. Mais on a eu cette opportunité, et ça a été notre premier gros reportage à l'étranger. Et on a vraiment découvert des choses absolument incroyables sur le plan de la maîtrise technique des joueurs. C'était top.
Oui, justement, la Masia, on en parle, c'est devenu presque un mythe. Est-ce qu'il y a quelque chose en arrivant qui t'a vraiment surpris ou que tu penses encore aujourd'hui qu'ils ont pu mettre en place ou un des éducateurs d'une manière d'être, parce que c'est vrai que aujourd'hui dans le monde entier quand il y a un formateur qui est passé par la Masia, on le considère comme un dieu vivant. Donc c'est un peu ça, je le vois beaucoup en Inde, il a été formateur à la Masia.
Oui, alors il y a plusieurs choses qui m'ont marqué dans ce reportage de quelques jours à Barcelone. Tout d'abord, quand vous assistez aux séances d'entraînement, très surpris de voir les éducateurs qui n'interviennent pas. On a tendance, en France, pas qu'en France, avoir des coachs volubiles qui interviennent beaucoup pendant les séances. Et là, à Barcelone, il y avait une liberté donnée aux joueurs que je n'avais pas vue en France et que je n'ai pas vue ensuite dans les années qui ont suivi dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'on laissait les joueurs jouer totalement. Et puis, toutes les 5 minutes, par contre, hop, coup de sifflet, les joueurs couraient retrouver le coach. Et là, il y avait un feedback et ça repartait. Donc ça, c'est une chose qui m'a marqué. Une autre qui m'a marqué, c'est vraiment en termes de contenu. On dit toujours, je ne sais pas si tu sais, mais en France, il y a eu pendant longtemps un débat entre la méthode analytique et la méthode globale s'agissant de l'entraînement, pour finalement se rendre compte aujourd'hui que c'est un petit peu un mélange des deux qui est le plus efficient. À Barcelone, je m'attendais à voir que du jeu. On me disait, tu vas voir, il n'y a que du jeu et pas du tout. Il y avait vraiment aussi ce travail analytique qui était fait. Alors, pas autant qu'à l'Ajax, mais quand même, beaucoup de travail avec appui, soutien, recherche de troisième. Et puis ensuite, tout ça a été injecté dans un second temps dans le jeu. Donc ça, c'était vraiment intéressant sur le plan vraiment purement technique de se rendre compte de ça. Ensuite, la cohérence de la formation à Barcelone. Le matin, on voit s'entraîner les U9. Et quand on voit les U17 l'après-midi, ils font la même séance. Alors bien sûr, aménagé, c'est pas tout à fait le même contenu. Mais là, on sentait vraiment une vraie cohérence dans l'approche de l'entraînement, ce qu'on pouvait retrouver, bien sûr, ensuite après chez les pros. Et enfin, une autre chose qui m'a vraiment marqué, enfin qu'on m'a apprise en fait lors de mon séjour là-bas, c'est que l'entraîneur des U19 a le même contrat que le coach des U9. Et ça, c'est exceptionnel. Et c'est le gros problème qu'on a en France, pas qu'en France d'ailleurs, mais c'est qu'en France, quand vous avez un éducateur qui est de qualité, on le pousse vers le haut, dans le foot à 11, pour monter ou pour ne pas descendre. Alors que la vraie complexité dans l'encadrement, c'est les enfants. Parce que si vous vous trompez dans l'encadrement, dans la façon d'entraîner avec un U17, c'est pas très grave. Dès lors qu'il joue, ça passe. D'accord ? Par contre, si vous vous trompez avec un enfant de 8 ans, sur le plan émotionnel, vous pouvez involontairement lui faire beaucoup de mal. Et puis vous pouvez même jusqu'à aller le pousser à arrêter son activité. Donc on devrait inverser la pyramide et mettre les vrais compétents, entre guillemets, dans le foot d'en bas, de base, chez les enfants. Le Barça le fait, mais là le Barça, là ils sont très forts, c'est qu'ils font les deux. C'est que vous avez les mêmes contrats, c'est-à-dire que vous avez la même compétence et le même niveau de salaire. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a plus d'entraînement en U19. C'est vrai, mais en U9, au Barça, le coach, il entraîne les U9 et à côté, on lui donne d'autres missions parallèles au sein du club. Ça m'a vraiment impressionné. C'est pour moi le modèle gagnant que j'ai retrouvé uniquement à Barcelone.
Ouais, c'est vrai. Pourquoi le entraîneur U17, il devrait être mieux que le U15 ? Aujourd'hui, c'est vrai, c'est une promotion alors que ça ne l'est pas. C'est juste une autre catégorie, au contraire.
Et puis, c'est très complexe d'entraîner des enfants. C'est très, très dur. C'est très, très dur. Ça réclame de vraies compétences. Pas que techniques, mais c'est même secondaire sur le plan humain. Et hélas, chez les enfants, on voit trop de parents qui sont pleins de bonne volonté, mais qui ne savent pas faire. On voit des éducateurs débutants, des jeunes, qui savent très bien qu'ils deviennent éducateurs, mais qui ne vous rendez compte, un coach de 25-26 ans, vous le mettez avec des U9, bonne chance, hein, c'est pas facile. Hein. Et c'est là qu'il fait des erreurs. Bien évidemment, il fait des erreurs. Et c'est normal de faire des erreurs. Donc, voilà, on manque pas mal de compétences dans le football de base, chez les petits, chez les enfants. La DTN, quand même, y travaille depuis quelques années avec la réforme des formations, mais ce n'est pas suffisant. Et dans tous les cas, on est très loin encore du modèle barcelonais tel que je l'ai vu en 2010. Bon, ça fait déjà 12 ans, peut-être que ça a changé, mais en tout cas, en 2010, c'était comme ça.
Et j'ai deux questions qui viennent, mais quand on parle de méthodologie, tu vois, la méthodologie du Barcelone, on se parle souvent de la méthodologie de Lyon, notamment dans ces idées d'expatriation ou de trouver un club partenaire et on veut vendre sa méthodologie. Tu penses qu'on peut mettre sur un dossier la méthodologie ?
Ouais, c'est difficile parce que des clubs qui vraiment ont une cohérence en termes de méthodologie, des plus petits jusqu'aux plus grands, c'est-à-dire à la formation, ça se compte sur les doigts d'une main. En France, je connais Lorient, qui est comme ça, et c'est à peu près tout. Pour le reste, je ne dis pas qu'ils travaillent mal, bien au contraire. Mais souvent, dans les faits, on se rend compte que les catégories, c'est un peu le club dans le club. Il y a bien évidemment un fil rouge, et c'est le boulot des responsables de la formation et de la préfo de le faire respecter. Mais c'est bien compliqué, malgré tout, de ne pas prendre en considération la sensibilité de chaque éducateur. Donc mettre sur le papier une méthodologie, ça peut servir comme un support de référence, de base sur lequel s'appuyer. Mais de là à véritablement obtenir un transfert sur le terrain, c'est pas évident.
Et souvent on parle de, justement pour eux, on va mélanger Barcelone et l'Ajax, il y a une personne qui est entre ces deux-là, c'est bien Johan Cruyff. Est-ce que toi, tu penses que derrière cette méthodologie, cette manière de former, il y a toujours une personne ? Est-ce que là, dans ce cas-là, ça peut être les concepts d'un Johan Cruyff, mais est-ce que tu penses que dans les autres académies aussi que tu as pu voir, ça part tout le temps d'une personne ?
C'est évident que l'expérience montre que tous les projets sportifs réussis, quelle que soit la méthodologie, quel que soit le contexte, ce sont toujours des affaires d'hommes, à la base. Et là, je vais reparler de Lyon. Lyon, c'est vrai que a cet avantage d'avoir quand même une vraie culture, peut-être un peu moins vraie depuis quelques années, mais une vraie culture quand même club depuis des années. Mais surtout, le gros atout de Lyon, qui n'est pas suffisamment mis en avant, en termes de formation, c'est le fait que les formateurs, pendant longtemps, c'est un peu moins vrai encore une fois depuis quelques années, mais pendant très longtemps, les formateurs restaient les mêmes. Je crois qu'entre 1980 et 2015-2016, il y a eu pas plus de 6-7 directeurs de centre à l'Olympique Lyonnais. Et c'est pour montrer en fait l'importance en fait de l'héritage des hommes dans l'action de formation de ces clubs-là. On voit bien dans d'autres clubs, en France ou à l'étranger, que lorsqu'on change les hommes tous les 6 mois ou tous les ans, c'est impossible de créer vraiment un travail sur le long terme. Donc bien évidemment, alors il faut les deux, hein, si on a les hommes mais que la méthodologie n'est pas bonne, ça ne fonctionne pas, et vice-versa, mais oui, j'ai vu plein de belles choses dans des clubs qui étaient avant tout le fait d'idées ou de projets personnels de formateurs qui étaient hyper éclairants pour les autres. Après, la difficulté aussi, c'est d'être capable d'avoir une vision, de la maintenir dans le temps, mais tout en étant capable de se renouveler. C'est-à-dire qu'à l'échelle de 10 ans, il se passe beaucoup de choses. Là, par exemple, depuis 10 ans, il y a un boom des neurosciences qui impactent le sport de haut niveau et en particulier le football. Un entraîneur, un formateur qui est au club depuis 10 ans, quand bien même il a une vraie vision sur la méthodologie, s'il veut continuer à être performant, il est obligé aujourd'hui de se mettre à la page. D'adapter peut-être un petit peu son orientation en fonction des nouvelles études qui peuvent sortir et qui permettent d'alimenter nos connaissances pour toujours avoir un accès plus performant avoir un meilleur accès à la performance. Donc rester sur une méthodologie, sur une vision, s'inscrire dans le temps, oui, mais tout en étant suffisamment agile, curieux et courageux pour aussi ajuster sa méthode au fil des années. Ça, c'est pas évident.
L'Ajax, c'est une académie qui t'a marqué quand t'es allé là-bas. Parce que aussi, c'est un peu comme le Barcelone. Maintenant, c'est devenu un mythe aussi, cette formation hollandaise, le football total, qui est déjà depuis 40 ans. Mais on voit que quand même, même si tout évolue, comme tu étais en train de dire, il y a quand même ces concepts qui sont toujours là, en fait, 40 ans après. Et on sent quand même ça dans le club.
Oui, alors avec des hauts et des bas. Hein. C'est vrai que ce qu'on a appelé la révolution Cruyff, il y a un peu moins de 10 ans, lorsqu'il est retourné au club, a permis justement au club de retrouver son ADN, qu'il avait perdu un petit peu depuis quelques années, justement. Mais malgré tout, ils n'ont pas mis longtemps à retrouver leur repère, parce que c'est quand même ancré dans ce club-là. Et ce reportage à l'Ajax, donc j'y suis allé 2 fois, ça reste à ce jour le club qui m'a le plus marqué. Mais vraiment sur plusieurs plans. D'abord, sur le climat général du club. Tout est ouvert. Vous rentrez au centre de formation comme ça, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien, c'est surprenant. Tout est ouvert, vous croisez les pros, vous croisez les jeunes. Et malgré tout, on sent le poids de ce club-là, on sent bien qu'on est à un endroit spécial, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Quand je parle de climat aussi, je parle de l'attention que ce club accorde aux parents. Trop souvent, c'est le problème de certains clubs en Italie notamment, ou en France également, c'est qu'on a peur des parents. On considère que les parents, notamment chez les jeunes, vont venir brouiller le signal. Alors c'est parfois vrai, effectivement. Les parents ne se comportent pas toujours bien au bord du terrain et donc, comme on ne sait pas trop les gérer, on coupe la relation. Mais quand vous coupez la relation, ça génère en fait de l'incompréhension, c'est source de tension et finalement c'est pire. Ça vous revient comme un boomerang encore bien pire quelques mois plus tard. Donc là où l'Ajax, je trouve, a trouvé la bonne approche, c'est qu'ils ont décidé, et je l'ai vu également ça au FC Bruges, en Belgique, ils ont décidé de faire des parents des partenaires de la formation. Et c'est pas que dans les mots. C'est-à-dire que vraiment, ils attachent une grande importance à l'accueil des parents. Il y a notamment un bâtiment qui leur est spécialement dédié, où les parents peuvent à la fois se restaurer, discuter dans des conditions vraiment très très cool, on va dire, et dans un bâtiment tout vitré où ils peuvent voir les séances d'entraînement. Voilà. des parents qui, à chaque fois qu'il y a un entretien individuel avec leur enfant, l'éducateur sort la vidéo qui va bien et qui va venir souligner l'évaluation qui a été faite du joueur. Donc voilà, un élément quand même factuel. Le parent, il est en face, il se sent considéré. Il ne peut rien dire parce que ce qu'on lui dit, bah, c'est acté par la vidéo. Et à la fin, il ressort en disant bah, « le coach, il a raison ». Voilà, donc vous voyez, c'est malin ce qu'ils font parce qu'ils font en sorte de leur donner suffisamment d'informations pour qu'ils se sentent intégrés au projet, mais sans évidemment tout leur donner. J'ai vu des choses aussi un petit peu excessives peut-être. Par exemple, je me souviens d'une séance U17 où les U17 s'entraînaient sur un demi-terrain à l'Ajax. Et sur l'autre demi-terrain, il y avait les parents qui faisaient presque, c'était pas un pique-nique mais pas loin, ils étaient assis sur la pelouse avec les petits frères qui jouaient avec un ballon. Et je me suis fait la réflexion que ça, en France, ça n'existe pas. C'est impossible de faire ça. Et vaut mieux parce que ce serait un sacré bazar. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même... bon, on connaît hein, le côté aussi un petit peu très libre des Hollandais. Mais là, c'était, ouais, ça m'avait marqué en termes d'accueil... et de climat. Après, sur le plan technique, je ne sais pas si on peut en parler, mais c'était aussi incroyable.
Et à Bruges aussi, un peu pareil, tu dis pour les familles, tu penses
Bruges, oui, vraiment une grosse approche, un gros projet autour des parents. Ça, je trouve que c'est super parce qu'on n'a pas idée, on sous-estime, je pense, le pouvoir de nuisance des parents qui ne le font pas forcément de manière volontaire. Mais c'est vrai qu'un papa, souvent c'est les papas, hein, souvent, hein, faut le reconnaître, ils refont le match, ils refont l'entraînement dans la voiture. Est-ce qu'on oublie trop? Nous, les éducateurs, on croit que parce qu'on est les sachants, le joueur va vous écouter. Mais le joueur, quand il a 8, 9, 10, 11 ans, il a un seul référent, c'est son père. Donc vous pouvez lui dire ce que vous voulez sur le terrain, après le match, dans le vestiaire. Dans la voiture, quand c'est le papa qui parle, c'est lui qui a raison. Donc quand on part de ce postulat, il vaut mieux faire du parent un partenaire de la formation. Et trop peu de clubs ont pris cette problématique à bras le corps.
Je vais te faire écouter un passage de Jimmy Adjovi-Boko. Et parce que je pense que c'est une thématique qui est intéressante et qui va nous permettre de parler de l'académie que tu as pu voir.
Donc pour moi, il était complètement inconcevable d'avoir un jeune qui sorte au bout de 2 ans, qu'on lui dise bah, « t'es pas bon ». Alors beaucoup nous ont dit « ouais, mais tu pourras pas avoir de résultats, vous pourrez pas avoir de résultats parce qu'il faut écrémer, il faut… » je suis… On est sur un autre projet. On recrute des jeunes à l'âge de 13 ans. L'objectif, c'est qu'à 18 ans, ils puissent devenir de vrais citoyens et qu'ils puissent trouver leur voie, que ce soit dans le football ou dans autre chose. Et nous, le challenge, c'était de démontrer qu'avec cette approche, on pouvait avoir autant, voire plus de résultats que les autres. Et on l'a prouvé.
Voilà. En fait, je voulais te faire écouter ce passage parce que je trouve ça intéressant parce que quand on parle de centre de formation, on parle d'éducation. Et voilà, ce degré entre l'école et le football, la volonté d'un voilà, l'objectif, c'est toujours former des joueurs professionnels. Mais là, on voit bien qu'il y a plein de projets qui existent dans le monde, plein d'académies qui, voilà, ils veulent surtout former des hommes et des femmes. Voilà. Est-ce que dans encore une fois, dans tes voyages, dans les différents numéros de vestiaire, dans les différentes personnes avec qui tu as pu échanger, tu as pu voir des choses intéressantes sur cette question de trouver un juste milieu entre l'école, le football.
Bon, c'est un sujet central dans les clubs, dans les centres de formation. Je dois dire qu'en France, on est, contrairement à ce que pourraient penser les observateurs non avertis du football, qui ont plutôt tendance à toujours souligner ce qui ne va pas dans le foot français, je dois dire qu'on est plutôt performant dans ce domaine. Tout ce que j'ai vu en France, encore une fois, je ne suis pas formateur, je ne suis pas le porte-voix des formateurs, mais ce que j'ai pu observer, c'est que ce qu'on appelle en France le triple projet, donc projet sportif, humain, scolaire, c'est quelque chose qui est pris vraiment en considération. Il y a des clubs qui le font très bien. Auxerre le fait très bien, Lorient le fait très bien, Rennes le fait très bien, et d'autres, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, loin de là. À l'étranger, j'ai vu des choses, effectivement, parfois moins bien, et puis parfois qui allaient encore plus loin dans la recherche du bien-être, hein, puisque c'est de ça qu'on parle en fait, hein, c'est l'épanouissement personnel de l'homme ou de la femme au service de l'athlète. À l'Ajax, si je reviens sur l'Ajax, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que alors l'Ajax, ils n'ont pas les mêmes, c'est pas la même législation en termes de recrutement. Vous savez qu'en France, on ne peut pas recruter de jeunes à partir d'un certain âge au-delà de 50 km. Enfin bon, ça, on ne va pas entrer dans le détail, mais là où à l'Ajax, ils peuvent recruter dans tout le pays à n'importe quel âge. Et ça donne des situations un peu surprenante d'enfants qui ont 12-13 ans et qui viennent de l'autre bout du pays. Eh bien, à l'Ajax, ils ont décidé qu'il n'y aurait aucun, absolument aucun joueur pensionnaire du centre de formation. Tous les joueurs sont soit dans leur famille, s'ils habitent à côté, pas très loin, soit en famille d'accueil. Mais là où ils poussent le bouchon beaucoup plus loin, c'est que la famille d'accueil doit reproduire la cellule familiale de l'enfant en question. Un exemple, si l'enfant habite dans une maison avec deux frères et un chien, ils vont lui trouver une famille d'accueil qui est une maison, pas un appartement, où il y aura deux garçons sensiblement du même âge que ses frères et il y aura un animal domestique. Voilà, pareil s'il est un appartement, s'il est... Voilà. Et ça, alors après, on ne peut pas mesurer l'impact réel que ça peut avoir, mais ça montre en fait une intention. Ça montre qu'au-delà de la performance, quand même, il y a des gens dans les clubs dont le job du matin au soir, c'est de penser au bien-être de ces jeunes-là. Et ça, c'est formidable. Alors après, il peut y avoir des excès. Hein, dans ouais. Il y a des choses, il se passe des fois des choses qui ne sont pas toujours recommandables. Il peut y avoir des jeunes qui échouent dans le triple projet. Bien évidemment que l'un des problèmes des centres de formation, souvent, c'est qu'est-ce qu'on fait du jeune qui échoue aux portes des pros. Parce que l'enfant qui rebascule sur le club amateur à 12-13 ans, c'est pas grave. Celui qui s'est entraîné tous les jours en centre de formation et qui à 19-20 ans se retrouve entre guillemets sur le carreau, pour peu qu'il ait pas fait ce qu'il fallait en termes de sur le plan scolaire, ça peut être compliqué. Et là, je peux prendre un autre exemple d'action qui est mise en place, je trouve c'est intéressant pour aider les joueurs à rebondir. C'est par exemple à Southampton, en Angleterre, où c'est un club réputé pour... ils font un travail de vidéo incroyable. Il y a 10 personnes à temps plein, uniquement sur la cellule vidéo dans le club. Je crois que c'est assez unique. Et bien, chaque joueur qui n'est pas conservé repart avec un montage personnalisé de ses meilleures actions. Qu'il peut ensuite montrer sans prévaloir auprès de futurs clubs, peut-être même des clubs concurrents, mais en tout cas c'est pour les aider à rebondir dans le foot. Et ça, c'est prendre du temps pour des joueurs qui quittent votre club, c'est quand même une action qui est intéressante aussi.
Et là je vais te faire écouter aussi un autre passage qui je pense va t'intéresser, Régis Laguesse dont je te parlais, qui était le bras droit, qui travaillait beaucoup pour l'Académie JMG, qui, faut dire, en 10 ans, en Côte d'Ivoire notamment, mais après ils l'ont fait dans d'autres pays, ils ont formé les meilleurs joueurs de la Côte d'Ivoire en les prenant à 12 ans. Et il nous raconte la simplicité de cette méthodologie.
La méthode, elle marche partout. Condition de laisser du temps, à condition d'être extrêmement rigoureux et très... à la fois très dur avec les joueurs, il faut les aimer, comme disait Jean-Marc tout le temps, et demander beaucoup. Et puis après, bon, la méthode, c'est une sélection drastique, hein, évidemment, puisque le jeu consiste à prendre des joueurs et les avoir le plus longtemps possible pour ne pas perdre un joueur que tu gardes 3 ans, tu mets 3 ou 4 ans à t'apercevoir que finalement, ce n'est pas le bon. Ça ne l'aide pas beaucoup, lui, et ça n'aide pas ceux que tu n'as pas pris en lieu et place, quoi. Mais il y a quand même l'avantage de la simplicité, à la fois dans le recrutement, dans la détection, le recrutement. Deux plots de chaque côté, 4 joueurs contre 4, allez-y jouer. Plus simple, pas pratique, hein, il n'y a pas besoin de tests dans tous les genres et tout ça. Et vu les résultats, c'est quand même pas si mal. Et je suis là pour affirmer que ça marche aussi ailleurs quand c'est fait aussi consciencieusement et avec de la continuité.
Ça, je voulais le faire écouter parce qu'il y a deux points, je trouve, assez intéressants. C'est déjà la simplicité, où il parle de cette méthodologie. Souvent, on parle de centre de formation et on a l'impression qu'on parle de choses techniques, poussées, compliquées. Et en fait, des fois, non, là, on le voit. Mais je trouve important aussi de remettre un peu de simplicité dans cette conception de la formation. Et l'autre point, que je trouve intéressant aussi, c'est pour ça que je voulais te faire écouter, c'est que lui, par contre, il dit, OK, je veux bien accompagner, mais l'important, c'est d'avoir les meilleurs gamins à 12 ans. Sinon, tu ne peux pas arriver à former. Et eux, ils sont, bien sûr, ils ont aussi un aspect éducatif important, mais c'est surtout réussir à former les meilleurs joueurs du pays. Et voilà, c'est un peu une autre manière de voir les choses. Mais j'ai trouvé ça intéressant, peut-être pour
te lancer. Oui, c'est hyper intéressant. D'abord, effectivement, il faut être pragmatique. Vous pouvez avoir la meilleure approche, la meilleure méthodologie du monde. Si vous n'avez pas les bons joueurs, c'est compliqué. Là encore, il faut faire preuve d'humilité. C'est que la matière première, le talent du joueur, c'est 70% à 80% du job. Il y a cette phrase de Guy Lacombe qui disait il n'y a pas très longtemps, vous dites que j'ai formé Zidane à Cannes, et vous pensez que j'aurais été assez con pour ne pas en former d'autres comme lui? Non, je ne l'ai pas formé, je l'ai accompagné, lui s'est formé tout seul. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que bien évidemment que le formateur il apporte quelque chose à son joueur, mais au départ c'est le talent du joueur, d'où l'importance de la détection bien évidemment. Et il y a des clubs comme Lyon par exemple dont l'atout il est surtout d'avoir de très très bons joueurs sur un bassin de population assez énorme dans lequel il y a relativement peu de concurrence en comparaison à l'Île-de-France où certes le bassin est encore plus important, mais où là, tout le monde vient se servir, entre guillemets, les clubs du Nord, jusqu'à Auxerre en dessous, les clubs étrangers. Le talent du joueur, c'est la base. Ensuite, dans ce que j'ai entendu là, il y a un mot que j'adore, c'est la simplicité. J'ai fait le tour de l'Europe grâce à Vestiaire. J'ai vu les meilleurs clubs, les meilleurs centres de formation grâce à Vestiaire. Je me suis régalé à faire ce job, à le faire encore aujourd'hui. Et si je dois aujourd'hui faire le bilan, ou en tout cas, quelle est la principale leçon que je retire de tous ces voyages-là, c'est que plus vous allez au très haut niveau, plus on est dans la simplicité. Ça paraît paradoxal, mais c'est exactement ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu de séances et de contenu plus simples qu'au Barça ou qu'à l'Ajax. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que simple ne veut pas dire simpliste. C'est comme quand on dit foot amateur, c'est l'amateur et l'amateurisme, c'est pas la même chose. C'est que dans cette simplicité qui doit permettre aux joueurs de jouer de façon totalement relâchée, avec une charge mentale moindre, ça c'est la simplicité, ça permet aux joueurs d'exprimer tout son potentiel. Mais autour, il y a une grande complexité dans la cohérence de l'entraînement, dans l'animation de l'entraînement, dans les corrections qui sont apportées. C'est là où, alors peut-être que je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais je trouve qu'en France, il y a un courant de certains techniciens, formateurs, penseurs du football, je ne sais pas comment, qui ont tendance à trop intellectualiser le football. Voilà. On a le sentiment, en fait, qu'on ne peut plus aujourd'hui connaître le football sans citer une phrase d'un philosophe. Il faut arrêter un petit peu avec ça. Alors, je ne sais pas d'où vient ce courant. Est-ce que ça me donne le sentiment, parfois, que plus j'intellectualise le football, plus je vous montre que je suis supérieur à vous, que je préserve ma parcelle de pouvoir, que ça vous est accessible, là, ce dont je vous parle. Voilà. Alors qu'en réalité, quand vous allez voir le très haut niveau, et j'y suis allé grâce à mon job, j'ai vu que des choses simples, mais par contre très très bien amenées. L'interview la plus simple que j'ai faite dans Vestiaire et que les gens ont préféré et qui pour moi est la plus pertinente, c'est celle de Coco Suodo. Et c'est un entretien qui est hyper simple dans sa compréhension. Et je me souviens qu'Ilibop m'avait dit, c'est marrant, il y a certains coachs que je lis dans Vestiaire, j'arrive pas à comprendre de quoi ils parlent. Alors que quand c'est Suodo qui parle et qui est bien meilleur que ces coachs-là, là, je comprends tout. Et ça résume tout. Ça veut dire que la simplicité, pour moi, c'est le plus haut degré de compétence. Parce qu'il n'y a pas plus difficile que d'être simple dans sa séance.
Tu m'as un peu raconté en off que voilà, cet entretien, il a été particulier. Est-ce que tu peux m'expliquer ?
C'est le moins qu'on puisse dire. Ça reste à ce jour mon plus grand souvenir, je crois, autant bon que mauvais au départ. Alors oui, en fait, Coco Ciodo, bon, voilà, comme beaucoup, hein, c'était un rêve pour moi de le rencontrer, de faire une interview, parce que il représentait tout ce que j'aime dans le foot. Et je n'avais pas ses coordonnées. J'appelle Reinald De Noëx. Je me suis dit, s'il y en a bien un qui peut le mettre en relation, c'est Reinald. Et Reinald me dit, ah non, non, oulala, moi, non, non, laisse-moi tranquille. Tu sais, un Coco, il n'est pas commode. Hein. Je dis, attends, Reinald, si toi, tu ne l'appelles pas pour me mettre en relation, j'appelle qui ? Parce que, ah non, non, mais moi, écoute, non, non, moi, je ne l'appelle pas. Par contre, ce que tu peux faire, appelle son dentiste. Son dentiste ? Et oui, c'est son meilleur ami. Tiens son numéro, il est très sympa, il va te répondre et c'est lui qui pourra te mettre en relation. Alors déjà, ça commençait bien l'histoire. Je me mets à appeler un dentiste pour avoir décroché l'interview de Coco Ciodo. J'appelle le dentiste et qui me dit oula, Coco, vous savez, c'est rare qu'il accepte une interview, il n'est pas commode. Alors, j'ai dit, oui, ça fait deux fois qu'on me le dit. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il accepte ? Il me dit, écoutez, envoyez-moi quelques exemplaires, je vous promets que je lui transmets. J'envoie les exemplaires du magazine Vestiaire, et puis il est convenu qu'on se rappelle une semaine après, donc je le rappelle, il me dit, c'est bon, il les a reçus, voilà son numéro, appelez-le, bon, il n'est pas très chaud, mais il veut bien que vous l'appeliez. Bon, ok. Je l'appelle, et là, effectivement, il est exécrable. Ah, exécrable, il me dit, mais qu'est-ce que vous me voulez ? J'ai rien à dire. De toute façon, les coachs, ils savent tout aujourd'hui. Ils savent tout sur tout. Donc, qu'est-ce que vous me voulez ? J'ai lu votre truc, là. Il y a beaucoup de conneries à l'intérieur. Enfin, bon. Donc, bon, là, j'essaie
de... Tu savais qu'il avait laissé son numéro, donc il y avait...
Ouais, donc, je reste zen, et je me dis, c'est pas possible. Ouais. Donc, il me teste, j'en sais rien. Et je lui dis, bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on se rappelle, on se voit. Écoutez, rappelez-moi dans 3 jours. Bon, dans 3 jours, je le rappelle, même topo. Et là, je me dis, c'est pas possible. Il me fait tourner en bourrique. Il me dit, non, mais rappelez-moi encore dans quelques jours. Enfin, ça dure comme ça plusieurs fois. Et puis, il me donne une date. Il me dit, rappelez-moi le 12, je crois. Et puis, en fait, le 12, ça tombe, c'est un dimanche. Bon, je me dis, tiens, bon, ça ne le dérange pas que je l'appelle un dimanche, mais moi, j'appelle le 12, hein, ok, pas de problème. Et le 12, donc, je fais le numéro, je l'appelle, et j'entends simplement une voix, il décroche, il dit « dimanche », et il raccroche.
Ah ouais, genre, c'est dimanche, faut que...
Donc là, allez rattraper le coup après ça, là, faut commencer. Donc là, je me dis, putain, comment je fais ? Là, je me le suis mis à dos, cette fois, c'est mort. Est-ce que je rappelle le lundi ? C'est la grande question. Et finalement, je le rappelle le lundi, alors là, je commence à être dans mes petits souliers. Et il est encore exécrable. Et là, franchement, je suis à deux doigts de l'envoyer bouler et de me dire, passer à autre chose. Je sais pas, je sens qu'il est un petit peu intéressé. Je sens surtout, en fait, qu'il essaie de me tester. Et puis, à un moment donné, il me dit, bon, allez, c'est OK, on fait l'entretien. Demain, 8h, en face de l'île aux Moines, en Bretagne. Et je dis, attendez, demain, 8h, il est 18h, je suis à Lyon. Ouais. Je dis, écoutez, hein, si vous voulez le faire l'entretien ou vous voulez pas ? Si vous voulez pas, c'est pas la peine, on fait pas. Genre, mais monsieur Ciodo, donnez-moi 24 heures de plus.
Ah ouais.
Voilà, il me dit, ok, après-demain, 8 heures. Et il raccroche. Très franchement, voilà, je vous fais l'histoire un peu rapidement, mais j'ai pas osé le rappeler pour lui demander l'adresse.
Ah ouais.
donc je me retrouve en fait 48 heures plus tard. Je prends l'avion à 5 heures du matin à Nantes. Et après, je fais Nantes-Vannes en train. Et puis Vannes, c'est en face de l'île aux Moines, je ne me souviens plus du village, enfin bref, en taxi. Et j'arrive à 7h30 du matin et je me dis, ok, mais je vais où, quoi. Voilà. Donc je l'appelle. Et là, il me répond, il me dit, ben non, Vous êtes matinal, vous, hein?
Ah ouais.
Alors que je... depuis 4h du matin, j'étais réveillé, c'est lui qui me donne rendez-vous à 8h, et là, il m'agresse en l'appelant, en me disant que là, j'étais au bord de l'eau, en Bretagne, et j'étais paumé, quoi. Et il me raccroche encore au nez, en fait. Et je me dis, c'est pas possible, donc je suis là, je vais aller au bout, hein. C'est pas possible. Donc je vais trouver une solution, et j'ai la chance de croiser un facteur. Et je dis, écoutez, vous savez pas où habite Coco Ciodo? Ah, il se marre, il me dit, oui, bien sûr, je vous emmène. Donc je pars avec le facteur. Et j'arrive devant chez Coco Ciodo, il me dépose, il est 8h, il y a un portail qui est ouvert, je vois pas de sonnette, je vois une allée, je le vois de loin, au téléphone, donc il me regarde, il bouge pas, j'avance, et arrivé à la moitié du chemin, il me fait un signe stop de la main, je m'immobilise, et je me dis mais il est fou en fait, ouais. Et après, avec sa main, il me fait c'est bon, approche. J'arrive, pas sympa toujours. On s'assoit, il parle pas. Et au bout d'un moment, il me regarde, il fait « Bon, alors maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que vous faites là ?»
Oh là là.
Ah, j'ai dit « Bah écoutez, vous vous rappelez, on s'est au téléphone ?»« Oui, je m'en rappelle, mais j'ai rien à vous dire. » J'ai dit « Bah mais monsieur Ciodo, maintenant je suis là, on va parler de foot. Voilà, je suis levé depuis 4h du matin. Voilà. » Et donc là, je lui pose une première question. Et il fait et là, je commence à me décomposer. Franchement, je me dis, mais c'est une catastrophe.
Partir, là.
Voilà. Et là, j'avais préparé les questions et en fait, je ferme le cahier. Je me dis, bon, ça marche pas. Et donc, je pose une question au hasard. Enfin, j'essaie de le rebondir. C'est un peu mon va-tout. Je parle du Barça en parlant d'Iniesta.
Ouais.
Et j'ai posé la bonne question parce que ce que je ne savais pas, c'est qu'il était totalement... comment dirais-je, fasciné par le jeu de Iniesta à l'époque du Barça. Et là, je le regarde, il se redresse sur sa chaise, il pose ses lunettes de soleil, il se lève, il me dit « Maintenant, on va parler de football. » Et il m'a fait un entretien le plus beau auquel j'ai assisté. Une formation à ciel ouvert, absolument incroyable. J'ai pas jeté un mot de ce qu'il a dit dans l'entretien. Il est devenu très sympa, très très sympa. Et à la fin, je suis parti, et il m'a dit « Monsieur Grobert ». Je dis « Oui, c'est bien ce que vous faites d'investir, continuez ». Et je suis parti.
Trop beau, et tu ne l'as plus jamais revu.
Non seulement je ne l'ai pas revu, mais je ne l'ai jamais rappelé, parce que je savais qu'il allait me dire ouais, « C'est pas ce que j'ai dit, c'était pas comme si », alors que je sais très bien que j'ai fait. Ouais. J'ai écrit ce qu'il avait dit exactement, mais je voulais rester sur une note positive. Donc je garde ce souvenir incroyable de quelqu'un qui s'est illuminé, qui à 80 ans a parlé de foot avec une modernité dans le propos, que j'ai trouvé ça incroyable. Ça m'a impressionné et c'est le meilleur pour moi entretien que j'ai fait en termes de contenu d'un coach qui ne l'était plus depuis 20 ans.
Ouais, c'est ça.
Ça qui est incroyable. Quoi.
Encore une fois, ce que me disait Vicage de Rasso, même encore aujourd'hui, à 50 ans, il se décrit comme il est footballeur.
Ouais.
Quand il dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»« Je suis footballeur. » C'est un état. Et les entraîneurs, c'est un peu pareil.
Ouais.
Ils sont entraîneurs jusqu'à la fin de leur vie. Ils seront entraîneurs. Quoi.
Ben oui, lui, là, il n'a jamais arrêté d'être entraîneur dans sa tête, hein, je crois. Ouais, d'ailleurs, il le dit dans l'entretien. Mmh. Et puis, quand on parlait tout à l'heure de simplicité, ben, lui, c'est le maître pour ça. Et à la fin, la dernière question, je crois que je lui pose la question en lui disant « Mais pourquoi vous n'êtes jamais investi après votre carrière dans les fédérations ou dans... ?» Il dit « Oh, parce que j'avais pas bonne presse auprès des coachs. » Bon, pourquoi ? Est-ce qu'ils étaient jaloux de vos résultats ? Ou qu'est-ce qui s'est passé ?» Il a cette réponse, il me dit « Ben, il n'arrivait pas à concevoir que ça puisse être aussi simple. » Sous-entendu ce qu'il faisait, lui, au FC Nantes avec ses joueurs. Voilà, et fabuleux, quoi.
Ouais, fabuleux. En même temps, là, avec la data, les vidéos, c'est pour ça aussi on a l'impression que tout se complexifie, justement. Parce que, quand tu es juste quand tu es soit un amoureux du football, même un formateur, et tu vois tout ce qui est autour maintenant de ces équipes, ça ne peut plus être simple.
Alors là, c'est encore autre chose, parce qu'on n'est pas dans le contenu de la séance. On est sur ce qu'il y a autour. Alors, oui, c'est complexe, mais ceci étant, la data, la vidéo... ne sont que des aides à la décision. D'accord ? C'est, le problème viendra le jour où ça va vraiment se substituer à la décision du coach. Pour le moment, on en est à un stade où ça reste une aide à la décision. Moi, je trouve ça bien. Pour l'accès à la performance, c'est intéressant. Ce dont je parlais, moi, c'était plus quand même sur les contenus d'entraînement, sur la sémantique aussi qu'on utilise. Certains parlent de foot de nos jours. Moi, je ne comprends rien. Je ne sais pas de quoi ils parlent. Pour moi, on intellectualise trop le football. Alors, imaginez quand vous parlez à un gamin de 15 ans de cette manière-là. Le gamin, il se demande de fait, c'est plus du foot, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, dans les ruptures qu'on constate aussi dans des clubs, c'est qu'à trop intellectualiser et à complexifier l'approche de l'entraînement, on en perd en fait le sel du jeu. Voilà, ce qui permet à des jeunes de sortir de leur zone de confort, de tenter des choses sans avoir peur de se tromper. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le sentiment d'entrer sur le terrain en passant un examen. Voilà, ils jouent. Et c'est ça qu'on a tendance un petit peu à oublier. Tout à l'heure, ce que tu m'as fait écouter avant, c'était sur la détection des choses très simples. Effectivement, à l'Ajax, par exemple, chaque année, ils testent 1000 joueurs. Il y a 1000 joueurs de tout le pays qui viennent faire une détection. Pendant une semaine, ils font que du 4 contre 4. Il n'y a pas de règle. Deux cages de chaque côté, deux mini-buts, 4 contre 4, et on y va. Voilà, c'est simple, le foot.
Il y a une autre académie, un autre centre de formation qui est un peu mythique, je sais que tu es allé le voir, c'est Milanello. Milanello, le centre de formation du Milan AC. Qu'est-ce que tu as vu là-bas ? Qu'est-ce qui t'a marqué ?
C'est pas ce qui m'a le plus impressionné. Donc j'ai fait les deux à Milan, l'Inter Milan et le Milan AC. Milan AC, bon, très, très beau centre d'entraînement, évidemment. Voilà, très clinquant, avec des contenus intéressants. Avec le poids du club, alors, c'est ce qui m'a peut-être le plus marqué, c'est la culture de la gagne, le poids du club énorme, mais à l'excès. Voilà. Pour moi, hein, après, voilà, c'est ce que j'ai vu à l'Inter Milan, par exemple, grâce à Mohamed Chacha, qui est aujourd'hui formateur au PSG, on avait pu se rendre là-bas, on a vu de très belles choses, et d'autres, pour moi, un peu excessives. Par exemple, je me souviens d'un coach U12 qui, dès le lundi, parlait de l'adversaire à ses joueurs. Donc, il se comportait comme un coach pro, quoi. Il parlait des forces et faiblesses de l'adversaire du week-end. On était lundi ou mardi, je ne sais plus, mais bon, on était en U12. Et ça, vous dites, ah ouais, quand on dit que les Italiens sont dans la gagne, c'est pas une légende. Hein. Ça, on le sent effectivement beaucoup. C'est ce qui m'a peut-être le plus marqué.
Ouais, c'est justement, c'est dans un autre épisode avec Vicage Dorasso, il me disait que juste après la défaite, la fameuse défaite du Milan AC contre Liverpool, où ils gagnaient 3-0, ils ont perdu au penalty après séance de tir au but à la fin, et que le président est rentré dans les vestiaires juste après, et il les a pas engueulés. Lui, il disait, on s'attendait à se faire engueuler, et il a dit non. La seule chose qu'il a dit, c'est le Milan est un grand club et il restera un grand club. Il est parti comme ça. Et ça va, c'est ça l'institution au-dessus de tout. Et ça me fait penser aussi à un autre passage d'un autre podcast, d'un autre épisode que j'ai fait avec Louis Norton, qui est un grand formateur portugais qui a aussi beaucoup qui a travaillé à Lille récemment. Et qui aussi il a travaillé dans le monde entier, parce qu'il a travaillé en Inde, en Afrique et au Benfica. Et il expliquait une des différences qu'il a marquées en arrivant à Lille, c'est qu'il n'y a pas vraiment cette notion d'institution à Lille. Et je voulais avoir un peu ton avis. Lui disait qu'à Benfica, le jeune de 15 ans, il jouait pour le club. Et toi qui es allé au centre de formation de Benfica, est-ce que tu l'as senti aussi, un peu comme à Milan, la puissance de ces institutions?
Oui, il faut le reconnaître. Benfica, un centre de formation fabuleux, incroyable. Les infrastructures, c'est les plus belles que j'ai pu voir en Europe. On sent tout le poids de l'institution. Bon, c'est aussi le fait qu'on est sur un petit pays où il n'y a pas non plus beaucoup de grands clubs. Là-bas, vous avez beau habiter dans le sud du Portugal, vous êtes soit pour le Benfica, soit pour Porto, quoi. J'exagère presque, mais un peu, mais c'est un peu ça. Et donc ces clubs-là ont un rayonnement qui est colossal sur le pays. C'est comme aux Pays-Bas où on est pour l'Ajax ou pour Feyenoord, au Eindhoven, quoi. Il y a trois clubs. Alors pourquoi est-ce qu'en France il n'y a pas cette institution ? Je ne sais pas. C'est difficile à répondre. On l'a quand même un petit peu. Bon, peut-être parce que je suis lyonnais, je parle comme ça, mais il me semble qu'à Lyon, quand même, pendant longtemps, on a senti ce pédigré. D'ailleurs, souvent, les gens disaient que c'était difficile quand on n'est pas lyonnais de rentrer dans le club. Et puis les jeunes avaient vraiment envie de réussir pour le club. Il me semble qu'il y a encore à Lyon cet état d'esprit-là, peut-être un peu moins, mais ça perdure. Après, c'est les clubs, c'est aussi le lot des clubs identitaires qui sont comme ça à l'étranger. Bon, en Italie aussi, il faut aussi dire que le foot, c'est la folie, quoi. Hein, je veux dire, on peut pas comparer la passion en Angleterre et en Italie du foot et en France. Il faut y aller dans ces pays-là, dans les clubs, pour se rendre compte de la différence.
Tu me disais en off que tu étais allé les voir et ça m'a toujours aussi surpris. C'est la Real Sociedad, qui est c'est aussi une institution dans le Pays Basque. Et c'est quoi leur secret ?
Alors, ça serait dur. Je connais pas leur secret. Par contre, ce que j'ai vu, c'est d'abord une culture, un amour du club, c'est indéfectible. Lorsque je suis allé à la Real Sociedad, j'étais accompagné. J'avais invité un ami, Alain Blachon, qui est l'ancien adjoint notamment de Guy Lacombe à Rennes, à Paris, ancien adjoint de Christophe Galtier aussi à Saint-Étienne. Et je l'avais invité à venir avec moi à ce reportage. Et le premier jour, on voit un match U12. Écoute, j'ai jamais vu des U12 jouer comme ça. Il y avait une qualité de déplacement et sur le plan moteur, dans les habiletés motrices, de joueurs à un âge où on est en pleine croissance, hein, c'est la puberté, qui était vraiment impressionnante. Puis même Alain, qui est un formateur, il a été formateur à Lyon, à Saint-Étienne, enfin bon, il me disait, mais Julien, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai jamais vu ces joueurs, mais ils sortent d'où ? Donc à la fin du match, on va voir les coachs, on dit, mais c'est qui ces joueurs-là ? C'est une sélection régionale ? Je dis, non, ça c'est les scolaires. Comment ça c'est les scolaires ? Et en fait, on a compris une chose incroyable et que peut-être on pourrait s'en inspirer en France notamment, c'est que jusqu'à 12 ans au Pays Basque, vous n'avez pas le droit de vous inscrire dans un club, soit le foot, le tennis ou le basket. Tous les sports se font en milieu scolaire. Mais attention, là où il y a une vraie valeur ajoutée, c'est que vous êtes obligé de pratiquer 6 sports, 3 individuels et 3 collectifs. Ce qui fait que ces jeunes-là, à 12 ans, ils ont une habileté motrice. Donc sur le plan moteur, sur le plan des déplacements, sur le plan de comment ils se déplacent dans l'espace, comment ils prennent l'information, ils sont en avance de façon incroyable sur les autres. Et c'est à 12 ans qu'ils se spécialisent, entre guillemets, et qu'ils s'inscrivent au foot ou au rugby. Là où il y a un bémol, c'est que cette avance qu'on a pu constater dans l'évolution de ces jeunes à 12 ans, on ne l'a pas retrouvé ensuite sur ce qu'on a vu. Hein. Après, bon, on n'est pas resté non plus. Sur ce qu'on a vu après en U16, en U17, en U18, donc à la formation, on n'a pas forcément retrouvé. Alors, je ne sais pas, il y a une rupture entre les deux, je ne sais pas pourquoi, mais toujours est-il que c'est l'équipe de jeunes qui m'a le plus impressionné et c'était lié à cette motricité, à cette richesse de ces jeunes sur le plan sportif. Je me rappelle d'une autre image qui a pu marquer peut-être les internautes qui ont pu la voir, c'est Zidane. Zidane à Madrid, alors je ne sais plus quel match, je ne sais plus quel score, mais c'était un score défavorable pour le Real Madrid. Zidane était l'entraîneur et on arrive à la mi-temps du match. Je crois que le Real est mené, enfin bref. Et là, c'est pareil, on s'attend peut-être à ce que Zidane peut-être prenne la parole et soit un petit peu véhément quoi, en direction de ses joueurs. Et la première chose qu'il fait, c'est de mettre des coups de pied dans les sacs qui sont posés par-dessus le gros logo Real Madrid et qu'il y a au milieu du vestiaire. Voilà, il le pousse et il regarde les joueurs de leur dire « N'oubliez pas où vous êtes là. » Voilà. Et je trouve que ça, bah, ça vaut toutes les phrases, tous les mots.
la petite anecdote que tu me racontais, je trouve que c'est sympa, on va la raconter. Là, vous avez la chance d'avoir fait un interview de ce grand monsieur qui est Zinedine Zidane. Et c'est lors de cette interview qu'il vous a expliqué un peu son envie de devenir entraîneur.
Oui, il était en train de... C'était avant qu'il devienne entraîneur chez les jeunes au Real Madrid. Il était sur le point de s'engager avec donc les jeunes du Real. Et il était en train de passer son diplôme avec la 3F. Et on parvient à faire un entretien avec lui. Et bon, il était content parce qu'il savait qu'on allait parler que de foot, donc du coup la confiance s'est très vite instaurée. Et on a eu rendez-vous donc dans un hôtel à Madrid. Et ouais, c'est rigolo parce qu'en fait on arrive à l'hôtel et bon, il arrive en retard. Et puis on voit une grosse voiture vite teintée qui se gare n'importe comment devant l'hôtel, et on se dit bon bah c'est Zizou quoi, il arrive et puis il a la bourre, il pose sa voiture comme ça. Et là vous avez un gars de la sécurité qui se met à courir en faisant des grands signes, d'un air de dire mais dégagez de là, vous êtes mal garé. Et en fait Zizou il sort de la voiture, il a simplement relevé un petit peu sa casquette pour montrer qui c'était, et là c'était le gars de la sécu, il s'est confondu en excuses. Zizou est rentré. On est monté dans une chambre pour faire l'entretien, ça a duré une petite heure. Évidemment, à l'accueil, 2-3 personnes l'ont reconnu. Et quand on est redescendu une heure plus tard, on pouvait même pas marcher dans l'hôtel. Il y avait 300 personnes.
C'est la folie.
Et là, il a passé du temps avec chacun. Il a fait une photo avec chacun. Au bout d'une heure, on est parti. Il a dû y rester, je sais pas, 2 heures, j'en sais rien, mais. Ça montre quand même que un peu la classe quand même du personnage, c'est que voilà, il a pris du temps avec tout le monde, il les a pas snobés, voilà, excepté la voiture hein, qui est restée en plan devant le devant la baie vitrée, mais voilà, c'est Zizou quoi, bah la ouais. Classe.
Je vais finir juste parce que moi ça me tient vraiment à cœur, forcément dans mon podcast où je discute avec beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de formateurs. Et forcément, on parle tout le temps de l'Afrique parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre ces formateurs français et plein de pays africains.
Il faut comprendre les gens, comprendre l'histoire du pays, comprendre pourquoi ils fonctionnent comme ça, pourquoi ils pensent comme ça, pourquoi ils sont comme ça. Bon, c'est rien de secret. Il faut aimer les gens aussi, hein. Parce que pour comprendre les gens, il faut prendre le temps de les écouter, il faut prendre le temps de vivre avec eux, il faut aimer les gens, quoi. Faut aimer les gens. Moi, j'aime l'Afrique, j'aime les Africains.
Je voulais te faire écouter ça, parce que je trouve que c'est bien aussi pour terminer. Que, voilà. Pour moi, c'est ça aussi, être formateur. Et être formateur à l'étranger pour les formateurs français, les entraîneurs, c'est ça, c'est que l'humain, quoi. C'est que l'amour.
Ah mais là, il a tout résumé. Alors, j'ai jamais entraîné à l'étranger, hein, mais pour ce que j'ai pu entendre et comprendre et voir, je pense que la première qualité de l'entraîneur ou du formateur qui part à l'étranger, c'est la contextualisation. S'il ne tient pas compte du contexte dans lequel il est, de s'imprégner de la culture, là où il est, c'est fini pour lui, ça ne va pas durer longtemps. C'est un petit peu ce qui a été reproché d'ailleurs, à un moment donné, à des entraîneurs français qui avaient le sentiment que lorsqu'ils allaient en Amérique du Nord, voilà, nous, formateurs français, cocorico, on est réputés, vous allez voir ce que vous allez voir, et ils arrivaient avec tout leur savoir, certes, mais sans tenir compte en fait, d'une mentalité totalement différente. Et qu'il faut s'adapter, quoi. La première qualité d'un éducateur, c'est de s'adapter au public, à la culture club, à l'histoire du club. On n'entraîne pas un jeune américain avec toute la culture US qu'il y a autour de lui en termes d'efforts, de la culture de l'effort, comme on entraîne un jeune de 15 ans en France, où la culture n'est pas la même et il faut s'adapter pour que le message passe. Donc ce qu'il a dit, évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'humain, c'est d'abord l'humain. C'est je comprends et je m'adapte à l'humain et cette compréhension, cette adaptation va se mettre au service derrière du sportif, de l'athlète que je vais entraîner, que je vais faire progresser pour performer.
C'est ça. Mais je trouve justement, bien sûr, il y a des cas d'éducateurs, des mauvais exemples, mais la plupart, et c'est là où ça, c'est pour ça qu'il me fascine, tous ces personnes qui partent à l'étranger, c'est qu'ils, justement, ils le font mais de manière tellement naturelle. Ils analysent pas. Ok, je dois m'adapter. Ils vont jamais ils se disent pas, mais ils le font naturellement. Parce que c'est ça leur métier, en fait. C'est s'adapter aux gamins qui sont devant, aux joueurs qui sont devant. Mais ils le font de manière tellement naturelle. Bon, Julien, je voulais, c'est la question que je pose aux formateurs, mais je vais te la poser aussi à toi. Qu'est-ce que tu dirais, toi, vu que t'en côtoies beaucoup, à un formateur, à un éducateur, à un coach qui hésite avant de partir à l'étranger?
Ça dépend à quel stade il est de sa carrière de formateur. Voilà. S'il est au tout début de sa carrière de formateur, alors moi, humblement, hein, parce que, encore une fois, je veux pas... Moi, je pense qu'en France, quand même, ce qu'on fait, c'est on le fait très bien, malgré tout. On peut apprendre beaucoup de l'étranger, sur ce que j'ai pu voir, mais l'inverse est vrai aussi. Donc, je pense qu'il n'y a pas de meilleure formation que d'entraîner dans un premier temps en France. Si on parle d'un éducateur qui est déjà expérimenté, et j'en connais pas mal, d'ailleurs, qui m'ont dit ça, il ne faut pas avoir de regrets de ne pas connaître à un moment donné une expérience à l'étranger. Et pas forcément sur le plan sportif, c'est sur le plan humain. Toute aventure professionnelle est avant tout une aventure humaine. Et je pense qu'on prend la dimension de cela lorsqu'on se retrouve en Afrique, en Amérique du Nord, en Inde, ou que sais-je, mais à des endroits où on doit s'adapter, où on n'est pas uniquement sur la méthodologie, on est sur l'approche culturelle, humaine. Ça, c'est passionnant. Alors, par contre, c'est pas fait pour tout le monde, parce qu'il y a aussi des coachs, comme dans d'autres métiers, qui aiment rester dans leur zone de confort, et puis d'autres qui recherchent ça, se mettre un petit peu en difficulté. La contrainte est le moteur de l'évolution. Et lorsque vous êtes à l'étranger, 1 an, 2 ans, 3 ans, je pense que d'un coup, vous progressez énormément, parce que vous vous êtes adapté, et après, vous êtes prêt, sans doute, à être encore plus fort lorsque vous revenez. On le voit chez les joueurs de foot aussi, hein. C'est le cas. Hein.
Bah, maintenant, il faut partir et lancer vestiaire à l'étranger.
Qui sait.
Bon, merci beaucoup, Julien. C'était super intéressant. On a pu parler de foot, de voyage, de formation. Donc voilà, je te souhaite une longue vie à vestiaire.
C'est gentil, merci
beaucoup. Et on se reverra bientôt.
Avec plaisir.
Ouais, merci beaucoup.
Cet échange avec Julien était très inspirant et reflète exactement ma manière de concevoir le football et le voyage. Même si la formation française est sans conteste une des meilleures du monde, on apprend toujours en regardant ce qu'il se passe à l'étranger. Voilà, vous venez d'écouter le 45e épisode de En dehors de ma surface. Hâte de vous faire découvrir le prochain épisode. Et n'hésitez pas à faire un tour sur podio.fr, P-O-D-2-I-O. Le site de référence pour retrouver les meilleurs podcasts de sport du moment. À bientôt !